Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Une émission composée d'un plat du jour et d'une madeleine. La madeleine, c'est Matteo Caranta qui s'en charge. Bonjour Matteo.
Bonjour Caroline.
Qui donc vous a confié son souvenir gustatif cette semaine?
Aujourd'hui, la madeleine, c'est le réalisateur Patrice Lecomte qui nous parle d'un rocher sucré.
À 12h15, la madeleine. Le plat du jour, quant à lui, est un fruit à l'histoire très longue, à la géographie bien définie, à la culture revendiquée. On le mange nature ou en accompagnement, on en fait des crèmes, des confitures, des purées, des confiseries, on tire du miel de l'arbre, on peut faire du pain et des gâteaux à base de sa farine et on le trouve surtout en Ardèche.
Ce village de 600 habitants est situé à la frontière du Gard et de l'Ardèche, au cœur des Cévennes. Et comme tous les villages de la région, il se réveille à l'heure des châtaignes, quand la coque piquante de celle-ci, les bogues, éclate sur le tapis roux de l'automne. Les forêts de châtaigniers couvrent les Cévennes et sont la principale ressource du pays. Un don du ciel, une manne en quelque sorte, qu'il faut seulement se pencher pour cueillir. Mais en France, l'heure a déjà sonné des marrons chauds qui font l'hiver plus doux.
Et oui, vous aurez compris, nous allons donc parler de ce don du ciel qu'est la châtaigne en compagnie de deux invités. Michel Grange, bonjour.
Bonjour.
Michel Grange, qui a fait le voyage depuis l'Ardèche, où vous êtes castanéiculteur depuis 7 générations. Alors, c'est pas vous depuis 7 générations, mais disons, chez les Granges, on est castanéiculteur depuis 7 générations. Vous êtes aussi transformateur à la ferme du châtaignier, c'est à Lamastre. Vous présidez le syndicat national des producteurs de châtaignes et vous présidez le comité interprofessionnel de la châtaigne d'Ardèche. Et vous nous avez apporté, alors je crois, quasiment toute votre production. Le studio est envahi de châtaignes, de confitures, de purées, de crèmes, de liqueurs, de soupes, de biscuits et de miel. Un grand merci à vous pour votre générosité. Christophe Sabaton est avec nous également. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes en Ardèche, vous êtes confiseur depuis 1907, vous-même, hein, je crois bien, et vous êtes à la tête de la maison, la fameuse maison Sabaton. Bienvenue à tous les deux. Alors, on entendait dans cette archivina de 1961, les marrons sont chauds, les marrons sont cuits. Alors, la première des choses peut-être à faire dans une émission sur la châtaigne, c'est d'essayer d'expliquer à nos auditeurices quelle est la différence entre la châtaigne et les marrons. En gros, il y en a un qui se mange, l'autre qui ne se mange pas, Michel Grange.
Oui, donc il faut bien distinguer les deux arbres, le châtaignier et le marronnier d'Inde. Le marronnier d'Inde donne des graines qui ne sont pas comestibles, qui sont plutôt utilisées en pharmacie. La bogue est moins épineuse, il y a une graine à l'intérieur. Et le fruit du châtaignier qui peut être appelé ou châtaigne marron, c'est là où commence la confusion.
Oui, mais alors pourquoi on dit marron pour parler de la châtaigne? Alors que le marron ne se mange pas, c'est même la deuxième erreur la plus fréquemment enregistrée par les centres anti-poison.
Voilà, oui, c'est selon l'ANSES. On a de plus en plus des problèmes d'intoxication. Donc pour nous, c'est assez simple. Producteur de châtaigne, on ne produit que des châtaignes. Mais après, quand on les vend, le grilleur de rue va vous crier marron chaud, et ce sont toujours les fruits du châtaignier. Après, les transformateurs, on les transforme en purée de marron, marron entier, marron glacé, et ce sont bien sûr toujours les fruits du châtaignier. Donc voilà, on essaie dans notre AOP, on a volontairement écarté le terme marron pour éviter cette confusion. Mais il y a des traditions culinaires, des dénominations comme ça qui sont difficiles un petit peu à faire bouger, mais progressivement, on va y arriver.
Oui, et puis alors vous essayez, parce que là, autour de moi, je regarde toute votre gamme, Michel Grange, de la ferme du châtaignier, c'est que le mot châtaigne qui revient. Ouais. Christophe Sabaton, c'est quand même difficile de les distinguer. Est-ce que vous nous aideriez entre la châtaigne et le marron?
Ah, c'est le débat incessant de savoir quand est-ce qu'on est, c'est une châtaigne, quand est-ce que c'est
un marron. Eh ben oui, quand même.
Alors, déjà, c'est un problème, c'est une subtilité de langue française, puisqu'en anglais, c'est chestnut, et puis ça, il n'y en a qu'un. Et c'est très ancien, puisque Olivier de Serres, dans son théâtre d'agriculture, disait déjà, en parlant de la Sardone, en disant que c'était la meilleure variété des châtaignes, et qu'elle était plus connue à Lyon sous le nom de marron de Lyon. Donc déjà, à l'époque, on avait ces deux termes. Même dans le François-Pierre de la Varenne, cuisinier, qui dans son ouvrage de parfait confiturier en 1664, nous dit qu'en réchauffant la châtaigne dans la cheminée avec de l'eau sucrée, on obtient un marron glacé. Donc, c'est très ancien d'avoir... c'est toujours le fruit du châtaignier qu'on va manger, qui est comestible, mais quand on va le transformer, quand on va lui donner de la valeur, On parlait que de marron, c'était quelque part plus noble. Et là, il faut voir aussi dans la tradition, puisque la châtaigne était la nourriture du pauvre en Ardèche. Au 19e siècle, on se nourrissait que de châtaigne. La production était de 100 kilos par habitant en Ardèche, c'était énorme. Et voilà, on dit, bon, c'était certaines explications, on dit, bon, c'était la nourriture du pauvre, c'était pour les cochons, ou pour mettre en valeur un produit qu'on allait vendre cher parce qu'il avait été transformé, parce qu'on l'amenait dans une ville, il fallait quelque part se détacher de la châtaigne, qui était mal vue, même dans votre introduction, où on dit, la châtaigne, il suffit de la ramasser. Non, c'est pas vrai. Michel me dira pas le contraire. C'est un travail, c'est un arbre qui est greffé. Il vous racontera tout ça. Il y a beaucoup de soins. Mais dans l'imaginaire, c'est quelque chose, comme le dit votre reportage de l'INAO, c'est voilà, il suffit de se ramasser et on l'a. Donc quelque part, ça n'a pas trop de valeur. À un moment, ça n'a pas trop eu de valeur. Aujourd'hui, c'est complètement différent parce que on revient aux produits de terroir, on revient, on fait vivre un produit emblématique de l'Ardèche qui est historique, qui a nourri nos ancêtres. Et bien sûr, c'est beaucoup plus flatteur et les producteurs ont raison de réintroduire le mot châtaigne. Mais bon, les habitudes ont la vie dure et quand on fabrique, on les transforme, on les confie pour les transformer en marron glacé. Châtaigne glacée, je ne sais pas si ça serait accepté par l'ensemble de nos clients du jour au lendemain. On y arrivera peut-être, mais c'est encore un long chemin à parcourir.
Châtaigne glacée, hein, Michel Grange, c'est aussi alors quelque chose d'assumer, de revendiquer sur votre peau. C'est châtaigne glacée, hein, de fait. Pourquoi l'Ardèche, aujourd'hui et depuis presque toujours, même si vous dites que la châtaigne existe depuis 8 millions d'années, mais pourquoi l'Ardèche, sachant qu'aujourd'hui, l'Ardèche représente 50% de la production nationale de châtaigne. C'est le département qui est en première position des producteurs de France, avec 3 000 à 5 000 tonnes par an. Est-ce que c'est parce que le châtaignier aime la moyenne montagne, une terre particulière, un climat particulier?
Oui, le châtaignier est très bien adapté à notre département, puisqu'il est cultivé dans des sols pauvres, des sols de pente, où on ne pouvait guère faire autre chose. Il était cultivé aussi dans d'autres régions de France, mais des régions un peu moins favorables, dans le sud-ouest aussi, où il était très important. Ces régions l'ont abandonné, puisqu'il y avait la possibilité de faire d'autres cultures. Mais dans toutes les zones traditionnelles de production, il est resté. Hein. C'est le cas en Corse, dans les Cévennes, et bien sûr en Ardèche.
Et on s'explique autrement que parce que les pentes sont sèches.
Oui, non, mais c'est parce qu'il y a aussi le travail des castanéiculteurs qui est très très important. Cet attachement à l'arbre, puisqu'il a un passé.
Dont parlait Christophe.
Il a un passé culturel dont a parlé Christophe. Et il a un passé aussi et un présent surtout environnemental, puisqu'il occupe nos pentes. Les producteurs se sont attachés à déboiser les forêts pour sélectionner les meilleures variétés qui composent notre AOP. À partir du Moyen-Âge, ils ont sélectionné 65 variétés à la fois pour leur goût et leur productivité. Il fallait qu'elles soient bonnes, puisqu'ils autoconsommaient, ils faisaient très attention au goût. Puis il fallait que ce soit des variétés productives, parce qu'il fallait qu'elles nourrissent toute la famille. Et puis chez nous, le châtaignier était considéré comme arbre à pain, on dit toujours, parce qu'il accompagnait la population de la naissance jusqu'à sa mort.
L'arbre à pain.
Voilà.
On l'appelle toujours l'arbre à pain chez vous?
Toujours un petit peu, oui, culturellement, oui.
Ça reste.
C'est toujours le cas. Puis comme disait Christophe aussi, c'est le châtaignier chez nous a aussi une grosse présence économique, puisque ce sont 1000 producteurs qui le cultivent, à la fois des producteurs professionnels, mais aussi des retraités, des plus réactifs. Et puis il y a aussi des metteurs en marché. Il y a toute une économie de mise en marché, des coopératives et des transformateurs. Les principaux transformateurs français sont également ardéchois.
Que fait le castanéiculteur que vous êtes, Michel Grange? Christophe Sabaton parlait du soin que vous apportez à l'arbre.
Donc, dans nos châtaigneries traditionnelles, on a des arbres pluricentenaires. Donc, ces arbres, si on veut les conserver très très longtemps, il faut leur apporter des soins. Donc, ces soins, c'est une taille régulière. Tous les 3 ans, on grimpe. C'est des arbres qui ont une très grande structure. Dès qu'il faut grimper, c'est pas facile. Il faut les tailler. Après, il faut enlever le bois au sol, le nettoyer. Et puis le tous nos châtaigniers sont greffés, donc il faut enlever tous les rejets qui poussent autour du tronc, en dessous du point de greffe, qui peuvent concurrencer le PMR. Ça, c'est un travail régulier qu'il faut faire tout au long de l'année. Puis il faut nettoyer le sol, lui apporter bien sûr une fumure organique. Il faut bien le nourrir aussi et l'arroser quand il le faut. Et puis le châtaignier, si on veut le renouveler aussi, il faut y penser, parce que c'est même si un arbre qui peut vivre plusieurs générations, il faut penser aussi à le renouveler. Donc chaque fois qu'il y a un arbre qui meurt, eh ben on fait une pépinière, on élève des plants, on les greffe et on remplace les arbres qui ont laissé la place à un arbre un peu plus jeune.
Est-ce que vous pourriez nous décrire, Michel Grange, la feuille du châtaignier et la bogue, qui est quand même peut-être un bon indicateur de la différence avec le marronnier. La bogue du châtaignier n'est pas exactement la bogue du marronnier. Oui, et la feuille non plus.
La bogue du marronnier est plutôt palmée, alors que celle du châtaignier est élancée. Et les bogues sont totalement différentes. Celle du marronnier d'Inde est peu épineuse. Elle forme une taille un peu plus petite. Alors que celle du châtaignier, suivant les variétés, est peut-être très très épineuse. Mais c'est surtout à l'intérieur, quand on ouvre la bogue. Celle du marronnier d'Inde a une ou quelques fois deux graines. Mais celle du châtaignier en a toujours trois. On peut trouver des anomalies, mais ces trois châtaignes ne sont pas forcément tous les trois fécondés. On peut en avoir une très grosse et deux petites pattes à côté, ou trois bien pleines.
Christophe Sabaton, vous parliez du fait de ramasser tout à l'heure, qui n'était quand même pas un geste anodin, contrairement à ce que disait la journaliste reporter de 1961 tout à l'heure. C'est toute une culture hein, de ramasser les châtaignes. Ça s'appelle même, ça porte même un nom, ça s'appelle la castagnade.
La castanéiculture.
Mais alors, le fait même de le ramasser, c'est pas la castagnade, le moment où on le ramasse, entre mi-août et mi-novembre? J'ai lu que ça avait un nom.
Enfin, moi, j'entends dire on va châtaigner, on en a fait un verbe.
D'accord.
La castagnade, c'est plutôt des fêtes aujourd'hui, parce que je ne connais pas trop l'étymologie. Non, pour revenir sur la place de la châtaigne en Ardèche, sachant que la production était bien supérieure à la fin du 19e siècle, on était à 500 000 tonnes au niveau français, ce qui est énorme, et alors qu'aujourd'hui, on n'est même pas à 10 000 tonnes. Donc une division par 50 du volume, alors qu'en Ardèche, on était sur la même, en fin du 19e, à 40 000 tonnes, et on est à 4 000, donc on a divisé que par 10. Donc il y a, effectivement, comme disait Michel, on n'a pas pu substituer d'autres choses, donc la châtaigne est restée. Et quelque part, je pense que les Ardéchois se souviennent qu'elle a sauvé de la famine pas mal de générations. Quelque part, si on est encore là, c'est un peu grâce à la châtaigne. Ça a marqué les paysages. Et les Ardéchois sont très attachés à leurs châtaignes, qui sont, alors beaucoup sont à l'abandon, et tout n'est pas exploité. Il y a quand même un attachement très fort, les gens ne veulent pas vendre leurs châtaigniers, veulent les conserver, parce qu'il y a vraiment ce fort attachement. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est un peu de renouveler ce verger qui est un petit peu vieillissant, qui a du mal avec les changements climatiques, les sécheresses au mois d'automne, à produire chaque année, ce qui n'était pas le cas, puisque avant les années 2000, c'était une production régulière qu'on avait. Les mauvaises années étaient exceptionnelles. Et aujourd'hui, même depuis 2005, c'est très différent. On a accumulé plusieurs mauvaises récoltes. Bon, cette année était correcte. Celle de l'an dernier était bonne aussi. On a quand même eu deux bonnes récoltes, ce qui quand même nous conforte dans l'idée que la châtaigne a un avenir en Ardèche. Mais précédemment, il y a eu trois mauvaises récoltes d'affilée à cause de sécheresse au mois de septembre et au mois d'octobre. Et c'est pour ça qu'il y a un plan de châtaignerie traditionnelle pour essayer de sauvegarder, redynamiser, rajeunir un petit peu cette plantation pour qu'elle s'adapte aux enjeux climatiques et puis qu'elle continue, parce que personne ne veut voir disparaître la châtaigne en Ardèche.
Alors avant d'entendre la madeleine de Matteo Caranta et de passer à la façon dont on cuisine, dont on mange, dont on transforme la châtaigne, j'aimerais juste vous entendre, Michel Grange, sur ces fameuses 65 variétés. On va pas les passer toutes en revue, bien sûr, mais la châtaigne ardéchoise est AOC depuis 2006, AOP depuis 2014, et on a de la pourrette et de la sardonne au sud de l'Ardèche, de la bouche clos au nord, de la bouche rouge dans le centre de l'Ardèche. Quelle différence de goût ou de qualité faites-vous entre ces variétés? Y en a-t-il déjà?
Ah oui, donc ce qu'il faut dire, c'est que ces variétés ardéchoises, elles ont été sélectionnées par des générations de producteurs du Moyen-Âge jusqu'à la plus récente, je pense qu'elle a déjà plus de 150 ans. Et chaque vallée a ses propres variétés. On a quelques variétés phares qui couvrent le tiers du département, mais jamais la totalité. Donc, Après, les producteurs avaient pour habitude de consommer certaines variétés, leur donner des destinations différentes, parce qu'il y a des variétés qui de plus petite taille, mais qui sont très goûteuses, très sucrées, qui conviennent par exemple très bien pour faire de la farine de châtaigne.
Laquelle, par exemple?
On a cité la petite pourrette tout à l'heure dans le sud d'Ardèche, dans le Nord, on a également d'autres variétés. Après, il y a des variétés qui s'épluchent très bien, et qui ont une texture très fine, qui sont très goûteuses, qui peuvent très bien convenir pour faire, par exemple, des crèmes de châtaigne, parce qu'elles ont une texture très fine, un goût très sucré, je disais, et qui permettent de faire des crèmes avec moins de sucre rajouté.
Allez, on continue.
Voilà des bons marrons tout chauds. Chauds, les marrons, chauds. Monsieur ?
Châtaigne, pas marron. Alors, Matteo Caranta, cette Madeleine.
Mais oui, moi j'ai rencontré le réalisateur Patrice Lecomte, connu pour ses comédies comme Les Bronzés, alors qu'il se prépare à la sortie d'une adaptation de Maigret au cinéma avec Gérard Depardieu. Mais Patrice Lecomte n'est pas que réalisateur, il a publié en cet automne 2021 Monsieur Bouboule aux éditions Artaud, un roman qui s'attache à raconter l'histoire d'un homme trop gros pour le monde dans lequel il vit et qui rêve, souvent, de danser avec légèreté. Il y a un peu de Patrice Lecomte dans cette histoire, puisque c'est sa propre Madeleine qu'il a glissée dans la vie fictive de Monsieur Bouboule, une Madeleine sucrée et boulangère.
Ma Madeleine, c'est un article qu'on trouve dans les boulangeries-pâtisseries, qui portait à l'époque de mon enfance un nom qui doit être désuet qu'aujourd'hui, c'était les Rochers Congolais. Je ne sais pas si les Rochers Congolais, ça s'appelle encore les Rochers Congolais. C'est constitué de noix de coco râpées. C'était délicieusement sucré, c'était la noix de coco qui crissait un peu sous les dents. Et quand on en fait soi-même, on fait des espèces de petites boules de pâte, quoi, de trucs. On met ça sur une plaque, on met ça au four et ça gratine. Et puis ça se répand. Je n'ai pas la recette sous le coude. Extérieurement, c'est doré, c'est ambré. Et intérieurement, c'est moelleux comme je ne raconte pas. Du lycée à la maison, à Tours, en province, il y avait une boulangerie-pâtisserie qui faisait des rochers congolais, mais c'était l'Everest, quoi, tellement ils étaient volumineux, gros, irréguliers, vraiment formidables. C'était des rochers congolais hirsutes, un peu. À cette époque, j'étais un peu rondouillard, et donc j'aimais bien les trucs sucrés. Et en rentrant, j'avais toujours quelques piécettes au fond de ma poche et j'entrais dans la boulangerie. Je ne disais même plus ce que je désirais parce que la boulangère me connaissait, savait que elle me voyait entrer. Elle n'emballait même pas le rocher congolais puisqu'elle savait que c'était pour consommer tout de suite. Et tous les jours, pratiquement tous les jours, je m'enfilais un rocher congolais. Avec délice, évidemment, sur le chemin du retour, en prenant bien mon temps. J'aimais beaucoup passer devant cette boulangerie parce que le fournil était en sous-sol et donc c'est par un soupirail que l'odeur du pain venait. Donc avant d'entrer dans la boulangerie, avant que la porte ne fasse ding, je passais devant le soupirail et quand je passais au moment où le boulanger faisait une fournée de viennoiserie ou de pain, j'avais déjà l'appétit, l'appétence pour ce rocher congolais qui m'attendait. Et je suis pas loin de penser que la boulangère m'en aurait mis un de côté si elle avait tout vendu avant moi. Aujourd'hui, je ne mange pas un rocher congolais tous les jours, mais il m'arrive assez régulièrement, comme un souvenir d'enfance, donc comme une vraie petite madeleine qu'on trempe dans les années d'enfance, il m'arrive d'entrer dans une boulangerie et dire « Vous avez des rochers congolais ?»
Je ne sais pas si on a des rochers congolais dans ce studio. En tout cas, on a un certain nombre de châtaignes sous toutes ses formes. Et c'est de ces formes que nous allons parler maintenant. Patrice Lecomte, dans sa Madeleine, parlait de l'odeur du pain qui cuisait dans la boulangerie. L'odeur de la châtaigne qui est en train de griller au four ou dans la cheminée, c'est quelque chose. On peut aussi la mettre à l'eau, Michel Grange, quand on veut la préparer. Après, bien sûr, avoir préalablement enlevé l'écorce, après l'avoir épluchée. C'est tout un travail de l'éplucher.
Oui, c'est l'étape la plus difficile parce que quand, comme vous l'avez dit, on peut les faire griller, donc il suffit de les inciser sur le pourtour de la châtaigne pour que les mettre dans un four bien chaud. Pour que les deux, on dit toujours que les châtaignes, pour qu'elles épluchent bien, il faut les surprendre. Comme ça, on fait éclater les peaux, ça détache les deux peaux à la fois. Et après, quand une autre façon de les consommer aussi, comme vous le disiez, c'est de les faire cuire à l'eau. Donc là, on enlève manuellement la première peau, après on les plonge dans l'eau bouillante pour décoller la deuxième peau. Donc pour qu'une châtaigne s'épluche bien, il faut qu'elle ait une dizaine de jours de récolte pour que la deuxième peau se décolle un petit peu de l'amande.
Et pourtant, il faut la manger rapidement, la consommer rapidement. Sinon
oui, parce que la châtaigne, c'est un fruit frais. Hein. Il y a 50% d'eau à l'intérieur et elle se conserve pas très longtemps. Parce que la châtaigne, c'est un fruit donc, sur lequel on ne fait aucune intervention chimique. chimiques. C'est, d'ailleurs, en Ardèche, elle est cultivée de façon naturelle, principalement en agriculture biologique. Donc, on ne fait pas de traitement chimique. Donc, il faut accepter qu'elle se conserve un peu moins bien que les autres fruits. Cette châtaigne, on essaye de la récolter le plus rapidement possible et après de la conserver au froid et de la cheminer comme ça le plus rapidement auprès du consommateur. Mais il faut savoir que c'est un fruit frais qui est aussi fragile qu'une salade. Il ne faut pas le mettre dans un rayon comme avec les noix et les noisettes. C'est un produit frais.
Alors c'est un produit frais qu'on peut manger donc glacé, donc les fameux marrons glacés que vous appelez les châtaignes glacées. On y revient, Michel Grange. D'où ça vient que le marron glacé se mange surtout en décembre et pendant les fêtes?
C'est, comme le disait Christophe tout à l'heure, c'est un produit noble, c'est un produit festif. Donc on le privilégie donc pour l'occasion des fêtes, principalement pour Noël ou pour Pâques. Donc c'est culturellement, c'est un produit qui a sa place sur nos tables. Et c'est aussi une façon de le consommer comme une confiserie aussi tout au long de la saison des châtaignes.
Alors on a justement le confiseur avec nous, Christophe Sabaton. Vous faites des marrons glacés, bien sûr. Je crois même que vous employez 80 personnes rien que pour faire vos marrons glacés. Certains épluchent les châtaignes à la main en famille, comme Édouard Hirsinger dans le Jura. Vous employez des personnes exprès pour les marrons glacés?
Bien sûr, c'est une activité qui est saisonnière, qui est effectivement attachée à la fête de Noël. Alors pourquoi? Déjà parce qu'il y a quand même un long processus qui fait que après la récolte, les premiers marrons glacés arrivent en décembre et du coup c'est le bon moment, on a pris beaucoup de soin, ça a été très compliqué pour les faire et on l'offre à Noël et c'est toute la principale de la consommation, c'est pour faire des cadeaux à Noël.
La ferme du châtaignier en fait des châtaignes glacées, Michel Grange, vous nous en avez apporté. J'en ai donné un ou une, puisque je ne sais plus comment les appeler maintenant. À Matteo Caranta, vous l'avez goûté?
En fait, vous m'en avez donné deux, mais il y en a une que j'ai déjà mangée. Alors, je veux bien goûter la deuxième.
Vous êtes gourmand, c'est pour ça?
Mais oui, et en fait, déjà, c'est...
Alors, elles sont emballées. Hein.
Déjà, elles sont emballées, donc on les déballe. Et il y a cette couleur très, très claire, très jolie. Et ensuite, bon, alors ça colle un petit peu sur le doigt.
Il faut enlever le masque, déjà, bon, allez, provisoirement.
Et voilà, et avant tout le goût de la châtaigne.
C'est important ça, Michel Grange, qui est d'abord le goût de la châtaigne, je suppose.
Oui, dans toutes les préparations, il faut essayer de garder avant tout le goût du fruit. Donc la châtaigne, c'est vrai que quand on le fait cuire à l'eau, et après, tout doucement, on fait des bains successifs de sucre qui vont remplacer l'eau. Et il faut essayer, dans tous les cas, de ne pas masquer le goût de la châtaigne. Mais ce qui fragilise un petit peu ce produit, c'est que, pour le conserver, quand même, il faut un certain taux de sucre et on a tendance à mettre un peu beaucoup de sucre pour améliorer sa conservation.
Comme un deuxième goût. Ce qui est étonnant aussi, c'est la manière dont ça fond dans la bouche.
Oui, c'est fondant, c'est moelleux.
Tout à fait.
Ouais, ça a l'air très bon. Christophe Sabaton, ça a l'air très très bon. Alors vous avez aussi une gourmandise qui est très différente, mais dans laquelle vous mettez des châtaignes confites. Je ne sais pas trop, vous allez nous la présenter. C'est la Castagna. C'est une nouvelle gourmandise de la maison Sabaton.
Effectivement, on a sorti ça. Alors c'est un petit mélange de l'intermédiaire entre le marron glacé et la crème ou confiture. Donc on y a mis des morceaux, mais on a réussi à les garder assez fermes. Il y a même des notes de châtaigne grillée à l'intérieur. On a l'impression, c'est pour faire un ensemble qui soit très parfumé, très typé châtaigne, pas trop sucré. Salé, c'est quand même un produit sucré, mais pas trop pour bien laisser s'exprimer le goût de notre excellente châtaigne d'Ardèche.
Alors, on en a devant nous. On a un gros pot de castagna que j'ai mis donc devant Michel Grange. Je m'adresse aux professionnels, aux goûteurs que vous êtes. Quel goût a cette castagna?
Déjà, je suis pas sûr de vous en laisser un petit peu.
Pourtant, il y a un gros pot. Hein.
Oui, donc on retrouve deux textures dedans. Donc, à la fois la texture de la crème de châtaigne. Donc là, c'est assez fin en bouche. Et après, la texture des morceaux de châtaigne confite. Et là, c'est vraiment, vraiment délicieux parce que c'est une confiture qui est peu sucrée et qui a vraiment le goût de la châtaigne.
Alors, vous n'êtes pas en reste, hein, Michel Grange, avec les pots que j'ai disposés devant moi de la ferme du châtaignier. La crème de châtaigne, vous la déclinez sous toutes ses formes. On a de la vanille, on a du café, on a de la crème de châtaigne au chocolat noir, aux écorces d'orange, aux noix, au rhum, et puis de la nature. Vous faites un peu de tout, vous faites même des produits salés, parce qu'il se trouve que la châtaigne, on ne la mange pas seulement en marron glacé, on ne la mange pas seulement en confiture ou en crème. Il y a une soupe de châtaigne champignon. Et alors justement, figurez-vous que comme on avait envie de parler de ces recettes aussi salées, on a contacté le chef 3 étoiles Guy Savoie, chef 3 étoiles à la Monnaie de Paris, toujours meilleur cuisinier du monde selon le classement international de la liste. C'est un chef 3 étoiles qui raffole des soupes. Il en a même fait 4 livres avec Alexis Voisenet, son chef de cuisine. 4 livres qui suivent les saisons et qui proposent des recettes ultra simples mais ultra bonnes de soupe. Alors comme on est encore en automne, on a ouvert le livre des soupes d'automne, on a découvert la châtaigne au lait. Et chaque soupe a un titre, celle-ci a le titre « Souvenir, souvenir ». Alors est-ce que ça veut dire, Guy Savoie, que c'est un souvenir d'enfance, la soupe à la châtaigne ?
Ben bien, vous avez tout compris, c'est bien sûr un souvenir d'enfance, et quel souvenir, parce que les jours où il y avait au déjeuner les châtaignes au lait, c'était un événement. Moi, je trépignais sur les bancs de l'école en disant quand est-ce qu'on sort et que j'aille me régaler avec ces châtaignes au lait. Alors, c'est tout simple, mais c'est beaucoup de travail. Enfin, c'est tout simple et à réaliser, mais c'est beaucoup de travail, parce qu'il faut d'abord peler les châtaignes, s'occuper aussi du céleri branche.
Vous mettez une branche de céleri, oui, dans votre
branche
châtaigne.
De céleri.
Pourquoi ça apporte quoi?
La châtaigne a besoin de cette, on va la qualifier d'acidité amère du céleri. J'ai l'impression que ça lui donne du punch à la châtaigne. Mmh. Voilà. Donc, et puis une pomme de terre par convive, et on va cuire ces châtaignes dans le lait, donc avec le céleri et les pommes de terre. Une fois qu'elles ont été pelées une première fois, hein, environ 45 minutes. Mais là, la meilleure manière de voir si elles sont cuites, ben, c'est de planter la pointe d'un couteau, et on sait si elle est... Donc vous égouttez tout ce beau monde, hein, et puis après vous attendez que ça refroidisse un peu, mais pas trop, parce qu'autrement vous n'arriverez pas à enlever cette deuxième peau. Et là vous enlevez cette deuxième peau, et que vous mettez les châtaignes pelées donc une seconde fois dans les assiettes, vous reportez le lait à bonne température et les pommes de terre aussi, vous versez tout ça dans l'assiette. Alors la pomme de terre, vous avez compris que c'est pour faire du volume, pour alléger un peu la corvée d'épluchage des châtaignes. Mais bon, on a aussi besoin de cette légère acidité de la pomme de terre pour que ça prenne toute sa dimension gustative. Moi, rien que d'en parler, j'ai envie d'en manger une assiette de châtaigne au lait. Voilà.
Et pour 500 grammes de châtaigne, vous mettez un litre de lait. Hein.
Un litre de lait, une branche de céleri, donc 4 pommes de terre de taille moyenne, du sel, du poivre, bien sûr. Et puis le matériel, une casserole où tout ce beau monde peut cuire en même temps, et une écumoire pour sortir également tout. Voilà, ça va pas être la soupe la plus esthétique que vous allez voir, mais c'est certainement l'une des plus savoureuses.
Temps de préparation 1h30, niveau facile, vous écrivez dans votre soupe d'automne, la châtaigne au lait.
Ouais, vous avez compris que le travail, c'était surtout de peler les châtaignes.
Oui, c'est ça, on a bien compris. Merci beaucoup, Guy Savoie, de nous avoir donné cette recette de la châtaigne au lait, votre soupe de châtaigne qui fait donc partie du livre des soupes d'automne, qui lui-même fait partie des 4 livres soupes qui ont paru chez Hercher. Un grand merci à vous.
Mais merci. Et je rappelle que ces recettes sont faites avec des produits que l'on peut trouver sur tous les marchés de France, du plus petit village à la plus grande ville.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci, bonne journée, au revoir, merci.
Et un grand merci à nos deux invités du jour aussi, Michel Grange et Christophe Sabaton. La ferme du châtaignier de Michel Grange et la maison Sabaton de Christophe Sabaton ont des sites, bien sûr, des sites sur lesquels on peut commander à foison tout ce qu'on veut. Je pense que vous livrez, j'espère que vous livrez à nos auditeurs, nos auditrices qui nous ont écoutés, et je crois qu'ils ont eu envie de goûter vos châtaignes. Merci beaucoup en tous les cas d'être venus et d'avoir participé à cette émission. Les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France, avec toute l'équipe, Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve, Matteo Caranta, June Lauper et notre technicien du jour, Ludovic Auger. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signe des Temps par Marc Weissmann.